Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ce temps que nous avons passé au milieu de vous. Et déjà vendredi, où nous avons parlé de l'importance de l'onction de Dieu dans notre vie. Et l'Église a vraiment besoin d'un renouveau spirituel. C'est vrai que la fin de toute chose est proche. Et nous savons que le Seigneur revient bientôt, Maranatha. Et les premiers disciples, quand ils se saluaient, ils disaient « Maranatha, le Seigneur vient ». Et ils se saluaient par un saint baiser. Est-ce que vous pouvez le faire, cela ? Saluer par un saint baiser ? Voilà. Oui, mais il y en a qui en profitent pour tout de suite. Voilà, mais c'est bien cela. Merci, ma chère sœur. Tu ne perdras pas ta récompense. Et je veux croire vraiment que le Seigneur veut vraiment déverser une nouvelle onction sur l'Église. L'Église n'est pas morte. Certains vous disent maintenant, les dons spirituels, ça n'existe plus. Mais c'est faux, cela. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur, encore aujourd'hui, confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Mais je crois que, dans l'ensemble, l'Église a véritablement besoin d'un renouveau spirituel. Et moi, je fais partie de cela. Je crois au renouveau. Alléluia. Alors, ce que j'aimerais vous inviter, c'est à ouvrir la parole de Dieu, qui nous parle de la vigilance chrétienne dans l'Épître aux Romains, chapitre 13 et verset 11. Et nous lisons ensemble, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Vous savez, bien aimé, je le disais encore hier soir pour la réunion de jeunesse, comment acquérir un tempérament de vainqueur? Et c'est vrai que j'ai pris l'exemple de ces trois compagnons, de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego, qui résolurent dans leur cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi Nebuchadnezzar et se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar était très irrité à cause de ce que ces jeunes ont refusé de se prosterner devant lui, devant ses statues. Et il leur dira, mais quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et les trois jeunes gens ont dit, nous avons au roi pas besoin de te répondre, mais sache une chose, que nous ne nous prosternerons pas devant ton idole, quoi qu'il nous en coûte. Et ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Et voyez-vous, je le disais aux jeunes, Daniel résolut de ne pas se souiller. Et aujourd'hui, on vit dans un monde corrompu. Vous savez combien nous avons besoin d'une jeunesse qui soit de la trempe de ces jeunes et qui décide de ne pas se souiller avec les mêmes et qui désire marcher dans la sainteté. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Et ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez renouvelés dans toute votre intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. La parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et un violent, il a la rage de vaincre. Et nous savons que le péché est couché à notre porte, mais nous devons dominer sur lui. Nous savons que Satan peut se déguiser en ange de lumière, mais nous savons qu'il nous mène une guerre sans merci, et la meilleure façon de se défendre, c'est de contre-attaquer. Moi, il y a bientôt un demi-siècle que je suis converti. Je me suis converti en 1962, et j'ai commencé le ministère pastoral en 1965. Eh bien, je peux vous dire que je suis l'homme le plus comblé, le plus heureux, et que je ne prendrai ma retraite qu'une fois au ciel. Parce que d'être auprès du Seigneur, c'est le meilleur. Et je sais que les temps sont courts, la nuit vient sur ce monde, et tandis qu'il fait encore jour, eh bien, nous devons racheter le temps. Et voyez-vous, ce que j'aimerais ce matin, vous inviter à tester de grandes choses pour Dieu. Attendez-vous à de grandes choses de Dieu. Et quand Dieu veut faire quelque chose, cela commence par une difficulté. Quels sont ceux qui n'ont jamais rencontré de difficulté dans la vie? Tiens, il n'y a pas beaucoup de candidats là. Hein? C'est vrai. Nous vivons dans un monde qui est difficile. Mais nous sommes plus de ce monde. Parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Notre cité à nous, comme dira l'apôtre Paul, elle est dans les cieux. Christ est ma vie et la mort m'est un gain, dira l'apôtre. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et c'est vrai que, bien aimé, quand Dieu veut faire de grandes choses, cela commence par une impossibilité. Et souvent, nous nous trouvons devant des impossibilités. Mais Matthieu 19, 26 nous dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à notre Dieu, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est contre nous. Et il a dépouillé les dominations et les puissances et les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. La croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Et voyez-vous, dans Matthieu 14, 22 à 34, en effet, la parole de Dieu nous dit qu'une foule nombreuse vient écouter Jésus, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ce qui compte à peu près entre 15 000 et 20 000 bouches à nourrir. Et voilà que les disciples étaient dans l'impossibilité de nourrir cette foule. Et ils sont allés trouver le maître, et le Seigneur renvoie la foule afin qu'ils aillent dans les villages acheter, faire des provisions. Et le Seigneur dira, donnez-leur vous-même à manger. Mais avec quoi, Seigneur? Avec 5 pains et 2 poissons? C'est impossible, cela. Mais tout est possible avec notre Dieu. Et Jésus a accompli ce miracle extraordinaire de la multiplication des pains et des poissons. Et nous pouvons nous imaginer les disciples répondant aux appels de ceux qui ont faim. Ils sont heureux de distribuer le produit de la grâce, du miracle de Dieu. Et voilà qu'après le repas, les disciples s'installent. Ils sont heureux d'avoir un maître comme le Seigneur. Mais au verset chapitre 14, verset 22, nous lisons, il obligea ses disciples à monter dans la barque et d'aller traverser, d'aller l'autre côté. Et voilà que je crois que le mot d'ordre que le Seigneur m'a mis à cœur pour chacun d'entre vous ce matin, pour cette année qui est en cours, où le Seigneur veut te dire, va plus loin. ne t'arrête pas. Et peut-être que ce matin, le Seigneur va peut-être t'obliger à monter dans la barque et d'aller en pleine eau avec lui. Même si parfois, sur cette mer de Galilée, eh bien, il peut y avoir, ça peut être tumultueux, il peut y avoir des tempêtes, mais le Seigneur a une telle autorité qui peut calmer toute tempête, qui peut se arriver dans ta propre vie. Et voyez-vous, il va tout mettre en œuvre pour que tu ailles plus loin, que tu ne t'arrêtes pas, afin que il va te dire, monte dans la barque et passe l'autre côté. Et voyez-vous, j'ai à cœur de partager 7 points à propos desquels Jésus veut t'emmener plus loin. Premièrement, où il veut t'emmener plus loin, eh bien, il veut t'emmener plus loin face aux impossibilités. Nous avons tous des impossibilités. Vous croyez que sur la terre, c'est facile? Pas du tout. Nous rencontrons bien de l'opposition. On n'a pas que des amis sur cette terre, on a aussi beaucoup d'ennemis. Hein. Vous savez, le monde ne nous aime pas. Mais c'est pour cette raison que nous ne devons pas aimer les choses qui sont dans le monde, ni aimer le monde. Et c'est vrai que devant ces impossibilités, il va te faire réaliser, un peu comme Moïse, hein, qui a quitté l'Égypte avec toute la foule, et près pas loin de 800 000 à 1 million de personnes, sans compter les femmes, les enfants et tout. Et ils sont partis avec de grandes richesses que les Égyptiens leur ont remis. Et ils se sont engagés dans le désert en direction de la terre promise où coule le lait et le miel. Et voyez-vous, nous voyons que la première impossibilité s'est trouvée quand ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Ils étaient dans l'impossibilité de traverser. Ils n'avaient pas appris à nager en Égypte. Ils avaient appris surtout à faire des briques. Mais ils n'avaient pas appris à... Il n'y avait pas de piscine en Égypte. Et alors, peut-être qu'ils se sont posé la question, mais pourquoi Dieu nous a-t-il placés dans cette situation? D'un côté, il y a la mer Rouge, ils sont dans l'impossibilité de la traverser. Et d'un autre côté, il y a les armées de Pharaon qui ont bien l'intention de les ramener en Égypte et de leur faire faire à nouveau des briques. Et puis, nous voyons que souvent le Seigneur nous place devant des impossibilités parce qu'il veut t'emmener plus loin. Et elles sont permises de Dieu. Il veut t'apprendre qu'il y a toujours un chemin tracé, qu'il y a toujours une mer qui s'ouvre, qu'il y a toujours une porte qui s'ouvre. Et les seules portes qui ont de la valeur, ce sont celles que Dieu ouvre. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais quand il ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Et nous savons que l'impossibilité ne doit pas nous arrêter. Lorsque nous nous trouvons devant un obstacle, c'est là que nous commençons à murmurer. On en veut aux responsables spirituels, on en veut bien sûr à Dieu, de ce qui nous place devant une telle impossibilité. Mais l'impossibilité, elle est voulue de Dieu. Elle est voulue de Dieu, elle est dans son plan. Parce que Dieu se sert de l'impossibilité pour se glorifier. Il se sert de l'impossibilité pour se glorifier. Mais si rien n'est impossible, Dieu ne peut agir. Un jour, Jésus s'est trouvé dans un village de Samarie et on ne voulait pas que Jésus vienne semer le trouble. Les disciples dirent à Jésus, « Veux-tu qu'on demande que le feu descende du ciel et les consume ?» Et le Seigneur leur dira, « Mais de quel esprit ? Je ne suis pas venu pour perdre, je suis venu pour sauver. » Et c'est vrai que dans Luc 9, 54, il est dit, on ne veut pas nous recevoir dans cette ville de Samarie, alors allons plus loin, ne nous arrêtons pas. Quand l'impossibilité est là, il y a toujours un autre chemin que Dieu place devant toi. J'ai mis un chemin tout tracé d'après le psaume 84, un chemin tout tracé. Et puis, l'impossibilité, elle est voulue de Dieu. Et puis deuxièmement, le Seigneur veut t'emmener plus loin face au combat. Le combat fait partie de la vie chrétienne. Nous pensons avoir des combats parce que nous sommes chrétiens. Mais pensez-vous que les non-chrétiens n'en ont pas ? Ils ont d'autres problèmes que nous. N'aviez-vous pas de combat lorsque vous étiez inconverti, lorsque vous étiez loin de Dieu? Je préfère les combats de la vie chrétienne avec Jésus que les combats dans le monde avec Satan. Aujourd'hui, dans son ensemble, l'Église est rentrée dans un grand combat spirituel parce que les taux se resserrent. La fin est proche. C'est vrai. Certains n'aiment pas trop qu'on parle du retour du Seigneur. Mais bon, qu'on le veuille ou pas, le Seigneur va revenir quand même. Et il viendra à l'heure qu'on ne s'y attend pas. Il viendra comme un voleur, et les voleurs n'envoient jamais d'avis de passage. À vous d'être prêts pour le jour où le Seigneur reviendra et que nous partirons avec lui. Vous savez, le Seigneur nous dit dans ce monde... Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ni la magie, ni l'enchantement ne peut rien contre mon peuple. Et bien souvent, moi-même, au cours de... Puisque j'ai exercé pendant 47 ans ministère pastoral, à Lyon, à Paris, au point du jour, et à d'autres villes, en Corse. Vous savez, les Corses, c'est parfois corsé, hein. Mais ils sont sympas aussi. Mais il vaut mieux pas avoir trop de problèmes avec eux, parce que si vous avez des problèmes, il vaut mieux faire votre valise et rentrer chez vous. Mais les Corses aussi, moi je les aime. Et puis c'est vrai que la parole de Dieu nous dit, ni la magie, ni l'enchantement ne peut rien contre mon peuple. Nous avons des tribulations. Et ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Seront persécutés. Nous sommes dans un climat de guerre contre le diable. Le diable nous mène une guerre sans merci. Et c'est pour cela combien, je le disais vendredi, quand j'ai parlé de l'importance de l'onction de Dieu, on a vraiment besoin d'être puissamment renouvelé dans les dons spirituels, d'être rempli du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et combien nous avons besoin d'être puissamment renouvelés. Moi, j'aime le Saint-Esprit. Souvent, dans certaines églises, on ne parle plus du Saint-Esprit. Certains même l'ont ignoré. Ils parlent du Père, ils parlent du Fils, mais le Saint-Esprit est absent. Mais non, 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 pas pour moi. Moi, j'aime le Saint-Esprit parce qu'il est le seul qui peut ouvrir ma compréhension, qui peut me rappeler... et devenir mon instructeur. Et c'est combien c'est une chose importante. Vous savez, la première arme qu'utilise Satan est le péché. Nous voyons que le péché est à son comble aujourd'hui sur cette terre. Le monde va mal. Regardez autour de vous tous les divorces. Je le disais hier, les divorces, il y a en France un divorce sur deux. Et malheureusement, beaucoup de gens vont consulter les voyants, les guérisseurs. Moi, j'habite le Chambon-sur-Lignon. C'est un endroit très connu, puisque pendant la guerre, ils ont caché 5000 enfants juifs. C'est là où ils ont tourné le film « La colline aux 1000 enfants ». Et c'est vrai que, malheureusement, aujourd'hui, sur ce plateau, beaucoup d'églises se sont refroidies. Certains ressemblent à des congélateurs. Mais nous avons besoin que le Saint-Esprit nous réveille. Et nous avons vraiment besoin d'une fraîche onction. Et David dira lui-même, « Répands sur moi une fraîche onction. Je répandrai sur vous une rosée, la rosée du ciel. » Et c'est pour cette raison, que la deuxième arme qu'utilise Satan est l'accusation. Il nous accuse. Et c'est vrai que combien nous devons, pour cette raison, quand la parole de Dieu nous dit dans l'épître de Jacques, « Soyez soumis à Dieu, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira. » Comme le frère ce matin, je l'entendais siffler. « Dégage !» Oui. Mais le frère, il chantait les louanges du Seigneur. Et combien il est important de résister avec une foi ferme. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, résistez avec une foi ferme, car vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dominations. » Vous savez, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. » Et pour être un vainqueur, eh bien, il faut être revêtu de toute l'autorité de Dieu. Dieu nous a revêtus de son autorité. Et une autorité, elle est reconnue qu'une fois exercée. Il ne suffit pas de dire « j'ai l'autorité » si vous ne l'exercez pas. Quand le diable rôde autour de vous, vous devez lui résister avec une foi ferme. Il doit savoir qui il a en face de vous. Et je me souviens de ce sorcier qui voulait me tuer. Il m'a dit, Ruffo, on en a marre de toi. Je fais, ah bon ? Malheureux ceux qui touchent au oint de l'Éternel, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en toi, et tu n'as aucune puissance. Même les cheveux de ma tête, et j'en ai pas beaucoup, sont comptés quand ils tombent. Mais j'ai tout pleinement dans le Seigneur. Je suis fort et je suis riche. Et c'est vrai que sa puissance, il nous a donné sa puissance et les armes pour abattre les forteresses dressées par l'ennemi. Le Seigneur est celui qui conduit son peuple à la bataille. Dieu nous donne une position d'autorité. Et dans Jérémie, j'aime beaucoup ce texte, vous savez, avant que tu sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Il te connaissait déjà. Et il dit dans le chapitre 1er du livre de Jérémie, « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Amen. Nous sommes des semeurs. Et celui qui sème avec l'âme récoltera avec des chants d'allégresse. Et c'est vrai, ce qu'un homme sème, il le moissonne aussi. Vous savez, moi j'aime beaucoup ce verset de Jacques 5,16 qui dit « La prière fervente ou agissante du juste a une grande efficacité et une grande puissance. » La prière fervente, pas une prière molle. Vous savez, dans le ciel, il n'y a pas de place pour les mous. Mais il n'y aura de la place que pour les vainqueurs. Quels sont ceux qui veulent être des vainqueurs? Vous voulez avoir une place au ciel? Alors, vous devez être un vainqueur et avoir ce tempérament de vainqueur. Dieu veut vous conduire dans la victoire, et non la vôtre, mais la sienne. parce que vous avez tout pleinement en lui, Colossiens 2:10. La victoire dépend de votre soumission à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est ce que je disais hier soir. Il n'y a pas de puissance sans sainteté. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui se souille encore. Il n'y a pas de poids et de mesure où on marche dans la lumière et dans la sanctification. Vous savez, je me souviens que il y a quelques années, j'étais invité comme orateur à Lyon, sous un immense chapiteau qui regroupait à peu près 800 à 1000 personnes. Et on avait rassemblé différentes communautés qui étaient venues participer à cette convention de l'Ascension. Et moi, je me trouvais au pied de l'estrade, et il y avait le groupe de louanges qui allait terminer ce temps de louanges et d'adoration. Et je devais prendre la parole quand soudain, une onction puissante du Saint-Esprit est descendue sur moi et je tremblais comme une feuille. Vous avez déjà vu les feuilles quand on leur souffle dessus, elles se déplacent. Et là, j'ai reçu une vision de la part du Seigneur et je me demandais ce qui s'arrivait et j'avais même mes collègues pasteurs qui étaient assis au premier rang. Ils étaient inquiets pour moi, ils se demandaient ce qui allait m'arriver parce que je tremblais comme une feuille. Et soudain, j'ai vu une immense porte magnifiquement sculptée avec de différents motifs sur la porte. Et derrière cette porte, elle était entrouverte. Et derrière cette porte, il y avait un personnage. Et ce personnage était Jésus. Je savais qu'il était à la porte, et je sais qu'il est, il est là. Et le Seigneur me disait, « Que vois-tu ? » Et en effet, j'ai vu une foule nombreuse, un auditoire très important, qui rassemblait des frères, des sœurs de toute nationalité. Et ils étaient tous revêtus d'une robe blanche. Oh, c'était magnifique. Mais le Seigneur m'a dit, « Mais que vois-tu ? » Et le Seigneur, j'ai regardé de près, et en effet, certains avaient des robes qui étaient plus ou moins tachées, qui n'étaient pas revêtues de fin lin, qui n'étaient pas pures. Et le Seigneur me disait, « Tu vois, mon serviteur, rien d'impur ne rentrera dans mon royaume, que celui qui est saint se sanctifie encore. » Et la première réaction, j'ai regardé ma robe, je me suis dit, « Mais dans quel état se trouve ma robe ?» Je me suis demandé, j'ai pas vu qu'elle soit pas tachée. Mais j'ai dit, Seigneur, je te demande que ton précieux sang me purifie de tout péché. Que rien d'impur soit dans ma vie, car je veux rechercher la sanctification, être mis à part pour un usage sacré. Et alors, pour moi, ça a été quelque chose de tellement important. Parce que la parole de Dieu nous met en garde et il nous dit, mettez votre foi en action. Parce que la foi voit ce que Dieu voit. La foi voit ce que Dieu voit. Et nous avons besoin d'être puissamment renouvelés dans notre foi. Seule la foi peut déplacer des montagnes. Et pour cette raison qu'il faut avoir, une foi même comme un grain de sénevé. Et voyez-vous, ça c'est quelque chose de tellement important. Vous savez, regardez l'exemple quand Jésus, la parole de Dieu, Jésus eut faim. Il s'est approché d'un figuier, espérant trouver des figues à manger. Mais ce n'était pas la saison des figues. Et il trouva que du feuillage. Et le Seigneur lui dit, il maudit le figuier et dit que personne ne mange de ton fruit. Et le lendemain, le figuier avait complètement séché. Et même les disciples ont été surpris de ce que le Seigneur ait maudit ce figuier. Mais c'est vrai que certains chrétiens, malheureusement, sont comme ce figuier, ils ne portent plus de fruits. Et certains pensent, ils pensent que les fruits, c'est dans le passé, ce qu'ils ont vécu au niveau de leur conversion. Mais le Seigneur ne regarde pas cela. En toute saison, tu dois porter du fruit pour la gloire de Dieu. Le Seigneur veut que tu portes du fruit et que ton fruit demeure. Vous savez, la foi, elle communique la vie de Dieu. Nous n'avons aucune autorité si nous sommes indépendants. L'esprit d'indépendance, c'est dangereux, cela. Et le Seigneur dira lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » On est faible, mais en lui, on est fort. Et seulement avec lui, on peut accomplir des exploits. Et je bénis le Seigneur, parce que Dieu a choisi des hommes tout à fait ordinaires, et des femmes ordinaires aussi, pour accomplir des choses extraordinaires. Et le Seigneur veut que nous puissions accomplir. Ne dis pas, je suis faible, mais non, regarde au Seigneur et tu deviendras fort. Vous savez, sa parole est parfaite. La réponse est donnée quand nous croyons. Prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est pour cette raison combien l'enfant de Dieu ne doit pas seulement lire la Bible que le dimanche matin ou que lors d'une réunion de prière. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin de te nourrir. Tu as besoin, c'est ce que je disais vendredi soir, il faut que tu sois pleinement renouvelé dans les dons, aspirer aux dons les meilleurs. Paul dira, je désire que vous parliez tous en langue, car celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Et c'est vrai que certains vous disent, oh, moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a quelques années en arrière. Non, non, tous les jours, tu dois être puissamment renouvelé dans les dons spirituels, dans les dons du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose de tellement important. Et puis, troisièmement, où le Seigneur veut t'inviter à aller plus loin face à l'adversité. L'adversité, c'est ce conflit qui nous presse. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Les épreuves dans la vie, elles sont inattendues. Tu ne peux pas dire, source, je ne boirai pas de ton eau. Mais nous devons être vigilants. Et seul l'Esprit Saint peut nous renouveler dans notre intelligence afin de ne pas nous conformer à ce siècle présent, mais à être transformés afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour cette raison que moi j'invite souvent les couples. Moi je suis conseiller conjugal et j'invite souvent les couples à prier ensemble. Vous savez, ça c'est quelque chose de tellement important. Beaucoup de couples ne prient pas. Ils ont une vie de prière chacun de leur côté. Non. La parole de Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, il prendra une femme et de deux, ils deviendront une seule chair. Et moi, j'ai beaucoup de joie et de plaisir de prier avec ma femme parce que ma femme, c'est mon radar. Et la femme a beaucoup d'intuition, plus que l'homme. Et l'homme a besoin de sa femme, comme la femme a besoin de son mari aussi. Ils doivent être... Mais ça va, vous n'avez pas à faire des bisous, là. Hein. Et ça, c'est quelque chose de tellement important. Parce que, vous savez, parfois les enfants nous donnent beaucoup de soucis. Et vous savez, les enfants sont pourvus d'un réservoir émotionnel. Ils ont besoin beaucoup d'amour. Et je connais beaucoup de parents, de familles qui connaissent beaucoup de difficultés, de problèmes à cause des enfants, certains enfants qui sont rebelles et violents parfois. Mais nous sommes là justement pour leur témoigner et prier pour nos enfants, parce que Dieu ne vous a pas donné des enfants pour qu'ils aillent en enfer. Ils iront tous au ciel avec vous. Si tu crois, toi et toute ta famille seront sauvés. Vous le croyez cela ? Amen. Vous savez, nous avons eu 3 enfants. Certains connaissent Anne. Il y a Myriam qui est à Madrid. Et notre fils qui est au Chambon-sur-Lignon, Sylvain. Eh bien, c'est vrai que parfois les enfants nous ont donné des soucis. Et nous prions tous les jours pour nos enfants, afin que Dieu vraiment les remplisse de son Saint-Esprit. Et quand nous étions à Washington, nous avons reçu une parole prophétique de la part d'un prophète qui venait de la Côte d'Ivoire, qui a dit « Mon serviteur, avant que tu quittes la terre, tes enfants auront une plus grande onction que toi, et ils me serviront. » Tu te souviens, Violette ? Toutes les larmes qu'on a versées tous les deux, on pleurait de joie. Seigneur, merci de ce que nos enfants te servent. Il y en a qui le servent. On a 2 de nos enfants qui servent le Seigneur. Vous connaissez Anne, et qui sert le Seigneur aussi avec Dave. Et nous en avons plus qu'une qui est sur le chemin du retour, qui est en train de revenir au Seigneur, notre Myriam. Et nous prions pour que vraiment le Seigneur... Et puis, elle a un petit garçon, Adam. Eh bien, lui, il est heureux parce qu'il a dit, « Moi, j'ai un papa, et mon papa, c'est Adam. » Celui qui était dans le jardin d'Éden. Et il dit, « C'est mon papa. » Et cet enfant qui a 8 ans, eh bien, je peux vous dire que vraiment, il s'ouvre au Seigneur. Et nous savons que nos enfants, nos petits-enfants aussi, un jour, serviront aussi le Seigneur. Et vos propres enfants. Ne soyez pas inquiets concernant vos enfants. Mais les projets de Dieu sont des projets de paix, non de malheur. Et la volonté de Dieu, c'est que toi et toute ta famille soient sauvés. Alors, c'est vrai que nous savons que parfois, le Seigneur veut t'emmener plus loin face à l'adversité. Et nous n'avons qu'une seule solution face à l'adversité. Ce n'est pas de gémir, mais c'est de crier à Dieu. Quand les justes crient, Dieu les entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand un malheureux crie. Et moi je crie, on crie avec Violette. Et des fois on se met en colère contre le diable. Parce que on lui rappelle qu'il n'a aucun pouvoir, aucune autorité sur nos propres enfants. Vous savez, l'adversité peut arriver de n'importe quel côté, là où l'on s'y attend le moins. Mais face à l'adversité, le Seigneur te dit, va plus loin. Monte dans la barque. Regarde ce que j'ai fait à Joseph. Lui aussi, il a connu l'adversité. Et pour que ses promesses puissent se réaliser, aussi haut j'avais décidé de le placer, dit le Seigneur, aussi bas, il a fallu que je le fasse descendre. Et il s'est retrouvé dans cette prison de Potiphar. Mais Joseph a triomphé. Il a dit à ses frères, « Le mal que vous aviez projeté contre moi, Dieu l'a changé en bien. » Dieu n'a-t-il pas le pouvoir de transformer et de changer le mal en bien ? Comment ? Mais par l'adversité. Par l'adversité. La manière dont Satan attaque, c'est injuste, me direz-vous. Mais Dieu a décidé d'établir son royaume sur la terre par l'injustice. La plus grande des injustices, c'est la croix du calvaire. Mais cette injustice a été en bénédiction au plus grand nombre parmi toute l'humanité. Et puis quatrièmement, le Seigneur veut t'emmener plus loin, t'obliger à monter dans la barque et d'aller plus loin face à la bénédiction. Pardon ? Face à la bénédiction ? Non pas dans la bénédiction, ce n'est pas que je ne souhaite pas la bénédiction, mais bien au contraire, que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que nous savons que c'est la bénédiction de Dieu qui nous enrichit. Et elle est suivie d'aucun chagrin. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, certains s'installent dans la bénédiction. et deviennent des chrétiens assistés. Je suis béni, chaque jour de ma vie, je suis béni, comme chantait Anita Pierce, cette Canadienne. Mais la bénédiction, elle peut nous arrêter. Elle peut nous arrêter. Et c'est quand le peuple d'Israël était béni qu'il oubliait l'Éternel. Et c'est quand il était opprimé à nouveau qu'il revenait à l'Éternel de tout son cœur. La bénédiction que Dieu nous donne deviendrait-elle un piège ? Aujourd'hui, suivons-nous le Seigneur parce qu'il nous bénit ? Ou le suivons-nous parce que nous l'aimons? Charles Spurgeon disait, ce qui fait de nous d'authentiques chrétiens, c'est notre amour pour Jésus. Souvent, on m'a dit, tu es un fanat de Jésus. J'ai dit, amen. C'est vrai que j'aime le Seigneur. Pourtant, souvent, il a été déçu par ma conduite, mais chaque fois, il m'a redressé, il m'a relevé et il m'a consolé. Il m'a corrigé aussi. Parfois, c'est nécessaire que Dieu nous corrige aussi pour notre bien. Et puis, le Seigneur veut que tu ailles plus loin et ne reste pas à la bénédiction en gardant tes yeux fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Et puis, cinquièmement, le Seigneur veut t'emmener plus loin face au renoncement. Le renoncement est un facteur de bénédiction. 5 fois dans les évangiles, il est dit que celui qui veut devenir mon disciple, des foules nombreuses suivaient le Seigneur. Et dans Luc 9, 23, Jésus s'est retourné, il a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix chaque jour. Chaque jour ? La croix n'est jamais une personne. Certes, je me souviens qu'un jour, quelqu'un a dit, ma croix, c'est ma belle-mère. Je veux, où t'as vu ça? C'est pas écrit dans la Bible? Non. La croix, c'est les décisions que nous prenons pour le Seigneur. C'est pas toujours facile de renoncer à soi-même. Nous sommes très attachés à ce que nous avons acquis. Mais le renoncement est un facteur de bénédiction lorsque tu la reçois et que tu la gardes. Mais lorsque tu renonces et que tu l'offres à l'exemple d'Abraham, quand il a offert son fils Isaac en sacrifice sur le mont Morija, Abraham dépose sa bénédiction sur l'autel et à ce même moment, Dieu pourvoit au sacrifice. Oui, Marc 8, 32 nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ne nous attachons pas aux choses en haut, mais là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Attachez-vous aux choses d'en haut. Recherchez son royaume et sa justice. Et puis, sixièmement, le Seigneur veut t'emmener plus loin face à l'attente. Oui. La parole de Dieu nous dit, attends-toi à l'Éternel, ton Dieu. Et il est dur d'attendre. Notre pire ennemi, c'est notre impatience. Vous n'êtes pas impatient, vous. Ne faites pas comme moi, j'étais en Inde, et quand ils disent oui, ils font comme ça. Ils remuent la tête, les Indiens. Et cela veut dire qu'ils ont compris. Ça veut dire oui. Eh bien, c'est vrai combien il ne nous est pas toujours facile d'attendre. Mais la parole de Dieu nous dit, attends-toi à l'Éternel, ton Dieu. Vous savez, le roi d'Israël, avant qu'il monte sur le trône d'Israël, eh bien, il a fallu qu'il attende 20 ans. Je ne veux pas vous dire que vous allez attendre 20 ans. Mais il faut vous attendre, attends-toi à l'Éternel, ton Dieu. C'est vrai, attendre est une attitude active et non passive. C'est-à-dire, attends qu'il intervienne. Attendre est un engagement de la foi. C'est une conviction et une certitude parce que je sais que Dieu va agir pour mon bien et pour celui de ma famille. Vous savez, la foi nous conduit à la patience et à la persévérance. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, vous avez besoin de persévérance après avoir persévéré, vous obteniez ce qui vous est promis, la victoire. Il faut persévérer. Et puis, dernier point, où le Seigneur veut t'amener plus loin, face à l'inconnu. Dieu veut t'emmener plus loin face à l'inconnu. L'inconnu est devant nous. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne peux pas dire « source, je ne boirai pas ton eau ». Vous savez, les épreuves dans la vie, elles sont inattendues. Mais nul ne sait de quoi demain sera fait. Parfois, l'inconnu nous tourmente, nous angoisse et nous inquiète. Mais ton inconnu est entre les mains de Dieu. Tu n'as rien à craindre. Ton inconnu est entre les mains de Dieu. Le Seigneur te dit, ton inconnu, je le connais parfaitement. J'ai marché sur cette terre avant toi. J'ai eu tes tentations, tes souffrances, mais rien ne m'échappe. Viens, car c'est moi qui te conduis dans toute tes circonstances, ton inconnu est entre mes mains. Alors aujourd'hui, voulons-nous lui répondre, Seigneur, je veux aller plus loin face aux impossibilités qui se dressent devant moi. Seigneur, je veux aller plus loin face au combat spirituel. Je veux être un combattant. Je veux devenir un Josué, un Caleb. Oui. Car ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Je veux aller plus loin face à l'adversité, parce qu'il est le seul. Paul dira lui-même, « Grâce soit rendue au Seigneur de ce qu'il me fait toujours triompher, et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est contre nous. » Je veux aller plus loin face à ma bénédiction personnelle. Je veux aller plus loin, Seigneur, monter dans la barque, aller plus loin avec toi, dans le renoncement, et je veux aller aussi plus loin face à l'attente et face à l'inconnu. J'ai tout entre tes mains et je suis ton disciple et le Seigneur veut t'amener plus loin. Va plus loin avec le Seigneur. Ne t'arrête pas. Continue, mais sois rempli de la puissante onction du Saint-Esprit. Sois loin du Saint-Esprit. C'est cela que tu as besoin. Parce que plus tu seras rempli du Saint-Esprit, plus tu seras vainqueur dans bien des domaines de ta vie. Tu seras premièrement vainqueur sur toi-même. Parfois, l'ennemi nous attaque au niveau de nos pensées, mais nous devons nous en remettre entre les mains de Dieu. Oui, mais bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut t'amener plus loin ce matin. Et t'oblige à monter dans la barque et de passer l'autre côté. Es-tu décidé à aller plus loin? Quand je vais en Afrique, ils disent tous amen, là. Et ils sont contents, ils disent amen! Amen! Et vous savez, en Afrique, les réunions, la louange, ça dure 2 heures. La prédication, 1 heure. Et quand on prie pour les malades, ça dure encore 1 heure. Les réunions durent 4 heures. Mais c'est tellement béni. Et puis quand je vois ces sœurs qui chantent avec leur boubou, et elles dansent. Et ça, c'est tellement merveilleux. Alors, je vais vous demander de vous lever à votre place. Est-ce que vous êtes décidé à aller plus loin? Mais ça, c'est... Vous êtes appelé à aller plus loin, à ne pas vous arrêter, mais à continuer à aller plus loin. Oh, que le groupe de louanges vienne. Venez nous conduire dans la louange et dans l'adoration, afin que nous puissions chanter, exprimer notre louange. Oui, parce que le Seigneur cherche. Il ne cherche pas l'adoration, il cherche les adorateurs qui l'adorent. en esprit et en vérité. Vous savez, chaque semaine, on chante souvent les mêmes cantiques. Mais bon, c'est bien de chanter les mêmes cantiques, mais le Seigneur nous demande aussi de chanter en langue, de l'exhorter les uns les autres par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques, chantant sous l'inspiration de la grâce.